Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 28 avril, bonsoir à tous. C'est reparti dans le flot de l'actualité. Voici le coup d'envoi de la session soirée de l'info sur RFI pendant 3h. Les temps forts. Accent d'Europe, ce sera dans 10 minutes. Accent d'Europe sera en Ukraine ce soir, où l'on continue d'informer malgré la guerre. Ainsi qu'en Allemagne, l'Allemagne qui fait appel aux médecins étrangers pour faire face aux déserts médicaux. Juste après, le débat du jour. On évoquera ce soir un nouvel impact du mandat de Donald Trump aux États-Unis. Ce sont les conséquences dans le monde du sport. Alors il faut savoir que les États-Unis vont accueillir les plus grandes compétitions internationales dans les prochaines années. Coupe du monde de football en 2026, Jeux Olympiques en 2028, très probablement Coupe du monde de football féminine en 2031. Les sujets ne manquent pas. Refus de voir des femmes transgenres concourir à des compétitions féminines. Suspension de la participation des États-Unis à l'Agence mondiale antidopage. Bref, Donald Trump déconstruit-il le monde du sport? Voilà la question que nous poserons. Réponse à suivre donc dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier qui ce soir nous emmènera en Espagne, car le pays est ce soir touché par une méga panne électrique. 18h30, temps universel Afrique soir, Zéphirin Quadio ce soir aux manettes. 19h10, TU, le décryptage qui parlera ce soir de l'or. L'or atteint des records, plus de 3 500 $ la semaine dernière pour une trentaine de grammes. C'est du jamais vu. Pourquoi cela alors que le contexte est si incertain économiquement? Clotilde Dumay et ses invités pour y répondre. Et puis le grand reportage, évidemment, 19h40, temps universel. Ce soir, en Afrique du Sud, alors que les 100 jours du mandat du président américain approchent, Trump à la Maison-Blanche, un pacte particulier pour l'Afrique australe. Voilà pour le programme. Et pour l'heure, 17h de temps universel. Le journal Margot Ratézic. Bonsoir Margot.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, l'Espagne, donc le Premier ministre Pedro Sanchez, qui espère un rétablissement rapide du courant.
Oui, une panne géante est toujours en cours dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal. On ne connaît pas encore les causes. Le gestionnaire espagnol du réseau électrique appelle en tout cas à ne pas spéculer, selon ses mots. En attendant, c'est toute l'Espagne qui vit au ralenti. Trains, avions, trafic routier, communication, la situation est loin d'être rétablie. Je vous propose d'écouter le récit de notre correspondante Élise Gazangel qui se trouve à Malaga, dans le sud de l'Espagne.
Devant la gare de Malaga, comme dans toutes celles du pays, des milliers de passagers attendent de savoir quand reprendra le service ferroviaire complètement paralysé à cause de la panne électrique. Gonzalo Torres essaye de se renseigner auprès de la police qui bloque les accès à la gare.
C'est le chaos. Ils m'ont dit qu'il valait mieux que je parte prendre un bus parce que je dois obligatoirement me rendre à Madrid. Alors, je vais aller à la gare routière, mais je ne sais pas si je trouverai une place.
Maria Lopez, elle, préfère attendre. Elle venait de passer quelques jours de vacances sur la Costa del Sol et espère rentrer au plus tôt à Barcelone.
J'ai peur de partir d'ici et qu'ils me disent ensuite que j'aurais dû rester, attendre des informations.
Malgré la situation, elle et quelques autres compagnons d'infortune le prennent avec le sourire.
Au début, j'étais angoissée, mais on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on y peut? On attend les infos et on dormira peut-être par terre, comme on voit parfois à la télé.
L'entreprise publique ferroviaire Adif a annoncé cet après-midi la suspension de tous les services de toutes les compagnies jusqu'à nouvel ordre. Élise Gazangel, Malaga, RFI.
Et notez que le courant a pu être rétabli dans plusieurs zones du nord, du sud et de l'ouest de l'Espagne, selon le gestionnaire du réseau. Jour de vote au Canada sous la menace de Donald Trump. Le président américain pousse une nouvelle fois pour faire de son voisin le 51e État américain selon ses termes. Les Canadiens, eux, justement, sont appelés aux urnes pour des législatives anticipées. Deux favoris, Mark Carney, le premier ministre libéral, et Pierre Poilievre, chef des conservateurs. Le vote est toujours en cours. Vladimir Poutine propose un nouveau cessez-le-feu à l'Ukraine. 3 jours de trêve la semaine prochaine à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette pause reste insuffisante pour Kiev, Daniel Valo.
Vladimir Poutine avait déjà proposé une trêve au moment des fêtes de Pâques, trêve qui avait entraîné une accalmie toute relative sur la ligne de front. Cette fois, c'est l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébré en grande pompe à Moscou le 9 mai, qui justifie l'annonce. Le cessez-le-feu doit débuter, précise le communiqué du Kremlin, le 7 mai à partir de minuit et s'arrêter 3 jours plus tard. Comme pour la trêve pascale, le Kremlin considère que l'Ukraine doit suivre l'exemple russe et que l'armée russe se réserve le droit de riposter à toute violation de la trêve. L'annonce a déjà été accueillie très froidement par Kiev. L'Ukraine adopte d'ailleurs la même position qu'au moment des fêtes de Pâques et demande, elle, un cessez-le-feu immédiat pour au moins 30 jours. L'annonce de la Russie intervient en tout cas à un moment que l'administration américaine a qualifié de crucial. C'est le mot utilisé par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui espère très vite des progrès dans les négociations entamées avec la Russie.
Daniel Valo du service international de RFI. Des crimes de guerre, c'est ainsi que l'Iran a qualifié les frappes américaines qui ont fait 68 morts au Yémen. L'attaque a eu lieu sur un centre de détention de personnes migrantes à Saada, fief des rebelles houthis dans le nord du pays. Washington dit avoir frappé plus de 800 cibles houthis au Yémen depuis la mi-mars. Les rebelles houthis qui perturbent le commerce mondial en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Le bilan s'élève désormais à 65 personnes tuées en Iran 2 jours après l'explosion meurtrière dans le plus grand port du pays. Un drame dû à une négligence. Le ministre de l'Intérieur annonce également que certains coupables ont été identifiés et convoqués. En France, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation en raison de la race ou de la religion. Vendredi, un jeune Malien a été tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Sud. Mais le motif religieux semble aller à l'encontre des premières explications données par son avocat Marie Cazadebé.
La procureure de la République de Nîmes, désormais en charge du dossier, écarte l'hypothèse d'un meurtre entre deux personnes de même confession. C'est bien la piste de l'assassinat raciste ou islamophobe qui est privilégiée. Mais de son côté, l'avocat d'Olivier H. assure ce lundi que son client n'a pas agi par haine de l'islam. L'homme de 21 ans qui s'est rendu dimanche à la police de Pistoia, près de Florence en Italie, aurait indiqué aux enquêteurs qu'il s'en était pris à la première personne trouvée sur son chemin. Et selon sa défense, il ne se souvient pas d'avoir filmé son geste. Dans une vidéo, face à sa victime agonisante, Olivier H. se félicite pourtant de son acte et insulte la religion musulmane. Son avocat le décrit comme silencieux, taciturne et renfermé, mais tout à fait disposé à être remis aux mains de la justice française. Le transfèrement pourrait prendre quelques jours à quelques semaines, précise la procureure de Nîmes.
Marie Cazadebé du service France de RFI. Les abysses ne sont pas à vendre. Après la Chine et les associations environnementales, la France monte au créneau contre le décret de Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche souhaite ouvrir l'extraction à grande échelle de minerais dans les grands fonds océaniques, y compris dans les eaux internationales. L'ambassadeur français des enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor, a rappelé la position de Paris et des scientifiques. Tous craignent un désastre environnemental si le cuivre et le cobalt, utiles à la transition écologique, était extrait des abysses. Explication de Lucille Jambert.
Pour la France, personne ne peut s'arroger le droit de détruire les océans, surtout ceux sur lesquels ils n'ont aucun droit territorial. C'est le droit international, a rappelé Olivier Poivre d'Arvor. L'ambassadeur français des océans est aussi dubitatif quant aux perspectives économiques. L'extraction de minerais que Donald Trump veut encourager dans les plaines abyssales au nom de la transition s'annonce très coûteuse.
Les abysses ne sont vraiment pas un Eldorado, ce sont d'abord des sanctuaires. Certains peuvent y voir un potentiel en milliards de dollars dont nous doutons beaucoup car à notre connaissance, le modèle économique n'existe pas. Donc, en effet, il s'agirait d'un acte isolé et un peu désespéré.
Production d'oxygène noir, poissons au crâne translucide, oursins à sabots capables de marcher à plus de 4000 mètres sous la surface. Les grands fonds marins regorgent d'une vie incroyable, encore méconnue. Surtout, racler le fond des océans pourrait perturber les grands équilibres de la planète, explique le scientifique Bruno David, à qui la France a commandé un rapport sur la question.
Aller exploiter les grands fonds marins, ça suppose aussi de remobiliser des particules extrêmement fines qui vont faire d'immenses nuages sur des centaines de kilomètres carrés qui vont circuler dans l'océan et qui vont perturber éventuellement le cycle du carbone, le cycle de l'oxygène, le cycle de l'azote.
La vingtaine de chercheurs internationaux ayant participé à ce rapport recommande, à l'instar de Paris, un moratoire de 10 à 15 ans.
Fin de ce journal, tout de suite, votre magazine Accent d'Europe sur RFI.